Fabriqué par Binge Audio.
C'est un sujet dont on entend parler tout le temps, mais jamais de la part des premières concernées. Mardi 18 février, le Sénat a adopté un amendement interdisant le voile dans les compétitions sportives. Puis quelques jours plus tard, la préfecture a interdit une manifestation qui voulait protester contre cette décision. Un an et demi plus tôt, le même Sénat interdisait aussi aux femmes voilées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Pas le droit de faire du sport à haut niveau, pas le droit de manifester, pas le droit d'accompagner son gosse en classe de mère. Ces petites interdictions ciblées une à une réduisent pour de vrai les libertés d'une partie de la population. À chaque fois, c'est pareil. Le sujet fait polémique, puis retombe. Le voile, c'est un sujet dit « touchy ». Touchy, c'est un petit mot mignon, un euphémisme pour dire qu'un sujet est sensible, qu'il divise, voire qu'il est tabou. J'ai travaillé dans une société de production qui tenait une liste des sujets touchy en France. Des sujets qu'il ne fallait pas aborder dans les émissions d'infotainment pour ne pas cliver les spectateurs. Le voile y était inscrit en premier, tout en haut de la liste. Alors nous, on s'est dit, puisque c'est touchy, on va en parler, et on va en parler avec les premières concernées. Et puis, ça a été un petit peu plus compliqué. On a eu des conversations passionnantes par téléphone avec des femmes qui ont choisi de porter le voile, ou des femmes qui ont choisi de ne pas le porter, ou des femmes qui ont choisi de le porter, puis de ne plus le porter. Mais toutes, elles nous ont dit, enfin presque toutes, elles nous ont dit, non, on ne retourne pas dans l'arène. Parce que chacune de leurs prises de parole sur ce sujet était accompagnée de harcèlement, de campagnes de dénigrement, voire de menaces de mort. Alors quoi que vous pensiez des choix de vie de nos invités aujourd'hui, je vous demande donc solennellement de respecter leur courage et leurs paroles. Il y a le droit de penser que le voile, c'est un sujet délicat. Moi non plus, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais même pas si je dois en penser quelque chose. Faut-il avoir un avis sur tout ? De là où je suis, c'est difficile pour moi d'imaginer ce que ça fait d'avoir la foi, de croire en Dieu. Ma religion à moi, c'est plutôt ni Dieu, ni mec, ni soutif. La foi, c'est un sujet tellement intime, mille fois plus intime que l'amour ou le couple. Une amie croyante me disait « Croire en Dieu, tu vois, c'est comme avoir une relation longue distance avec un mec qui te répond jamais. Mais tu dois garder confiance dans le fait qu'il t'aime. » C'est difficile à imaginer, on ne sait pas forcément quoi en penser, c'est touchy. Eh bien, c'est justement pour ça qu'on va tout simplement en parler, qu'on va tout simplement se parler.
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On peut plus rien dire.
Mes très chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure à converser ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons comment parler sereinement du voile. Avec moi, pour tenter de répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Mariam Pougetou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en master 1 de sociologie à Évry et vous êtes aussi vice-présidente de l'UNEF, en charge des questions universitaires et de la jeunesse. Agnès Defeo, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes sociologue et réalisatrice. Vous êtes autrice de « Derrière le niqab, 10 ans d'enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le voile intégral ». Alors pour revenir à notre actualité, donc comme je le disais, le Sénat a adopté le mardi 18 février un amendement interdisant, le mardi 18 janvier pardon, un amendement interdisant le port du voile dans les compétitions sportives. Comment vous avez réagi à cette nouvelle, Mariam Pougetou ?
Concrètement, j'étais étonnée et pas étonnée. C'est-à-dire étonnée parce que je me suis dit, quand même, on a le droit de manifester, c'est un droit aussi, une liberté en France, et c'est important, on y est tous très attachés, moi, syndicaliste, la première. Et en même temps, se retrouver à être confrontée à une situation où on nous refuse de manifester.
Ah, vous faites référence, au fait, quand l'amendement a été voté, ensuite il y a eu une manifestation qui a été organisée par un collectif qui s'appelle les Hijabeuses, et cette manifestation a été interdite par la préfecture. Je rappelle juste le petit contexte.
Ouais,
c'est presque le plus fou, je trouve, que d'interdire une manifestation.
Ouais, moi, c'est ce qui m'a le plus choquée. Et je me suis dit, c'est encore plus facile parce que la question sous-jacente, c'est la question du voile dans le sport. Et donc, ça donnait un argumenté supplémentaire. Enfin, le communiqué de presse de la préfecture était allé dans ce sens-là. Et c'était extrêmement problématique, à mon avis, comme position. Et heureusement qu'elles ont fait un recours et elles ont eu gain de cause parce que la loi aussi est de leur côté. Et souvent, la loi est du côté des femmes qui portent le voile. Mais on occulte cette question législative et on se concentre sur autre chose et sur l'opinion publique, etc.
Oui, alors ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que le lendemain du coup de cette interdiction de manifester, comme vous le dites, les hijabeuses ont déposé un recours auprès du tribunal administratif de Paris et qu'elles ont obtenu gain de cause et que le tribunal administratif a estimé que cette décision avait été une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit de manifester. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Agnès de Feo?
Alors, moi, en tant que sociologue, je ne porte pas le voile, je ne suis pas du tout partie prenante dans ça. La seule chose que je vois, c'est le côté récurrent, en fait, de ce genre de mesures. Et par rapport à ce que vous disiez que c'est un sujet tabou, mais c'est pas forcément un sujet tabou. Au contraire, on pourrait dire c'est un marronnier qui revient régulièrement dans l'actualité. Et justement, quand il n'y a plus d'actualité, il faut absolument parler du voile. Donc, au contraire, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est la nouvelle actualité de cette année 2022, comme il y en a eu une à chaque fois, pratiquement tous les ans. Alors, en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est de voir la répercussion, en fait, sur les gens. Et j'ai l'impression que les gens n'ont pas vraiment retenu l'information. Hein. On n'en a pas du tout entendu parler, ça n'a pas fait tache d'huile, comme précédemment. Donc, en fait, ça ne fait que révéler une société qui est complètement obsédée par le voile et qui ne peut pas s'empêcher, et en tout cas la politique aussi, la politique qui a besoin de ressortir cette question par rapport à des propositions de loi ou des lois ou des amendements. Donc, pour moi...
Excusez-moi, je suis navrée de vous couper la parole. Marianne Pougetou, c'est un sentiment que vous avez aussi, que la société est obsédée par le voile. Du coup, je précise pour les gens qui nous écoutent, qui ne vous voient pas, que vous aussi, vous portez donc le foulard. Vous avez le sentiment que la société est obsédée par le voile ?
Je pense pas que les citoyens le soient fondamentalement, mais je pense que une partie en font un sujet d'actualité systématiquement, et je rejoignais effectivement Agnès sur ça, en font un sujet systématiquement, et donc en fait on a l'impression que tout le monde pense que c'est un sujet. Et en fait, alors que ça pourrait très bien être un non-sujet, parce que à partir du moment où on dit « mon corps, mon choix », on pourrait très bien se dire « c'est pas un sujet ». Et les femmes qui le souhaitent peuvent le porter sans problème. Et celles qui ne le souhaitent pas et qui sont en contrainte, là, il y a des actions à mener. Mais j'ai l'impression qu'on tourne le problème dans l'autre sens, ce qui finalement affecte l'ensemble des femmes qui le portent ou qui ne le portent pas et qui sont de confession musulmane.
Elles sont discriminées, ces femmes ?
Oui, bien sûr.
Oui, hein. Oui. Oui, complètement, au moins.
Elles sont discriminées, elles n'ont pas accès à tous les métiers, elles sont insultées dans la rue, enfin, c'est... Et elles n'ont aucun... elles n'ont pas la possibilité de se plaindre. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que leur parole n'est pas écoutée, elles n'ont jamais droit à la parole. Hein. Donc, on n'écoute jamais les premières intéressées, on projette sur elles des intentions qu'elles n'ont pas. Qu'elles soient politiques, on projette des intentions comme celles d'actes politiques ou de vouloir mettre à mal la cohésion sociale, enfin des choses complètement délirantes. Et quand on a travaillé donc, sur les femmes, moi j'ai travaillé surtout sur les femmes qui portaient le niqab et le djilbab, on voit qu'en fait leur première préoccupation, c'est une préoccupation individuelle. Elles sont très auto-centrées, elles ne pensent pas du tout vouloir propager en fait une idéologie. On les accuse souvent aussi d'appartenir aux frères musulmans ou d'avoir un agenda politique, ce qu'elles n'ont pas, en tout cas dans mon échantillon.
Celle que vous avez étudiée, en tout cas, n'en faisait pas une revendication politique, c'était un choix de vie individuel.
Tout à fait.
Check News avait fait un recensement sur une semaine de télévision française en octobre 2019. Il s'était tenu 85 débats sur le voile, donc je vous rejoins un peu sur la question de l'obsession. 286 personnes avaient été invitées pour en débattre, dont 0 femmes voilées. Marianne Pougetou, est-ce que les médias vous approchent, vous, pour en parler ?
Ouais. C'est ça, en fait, qui est incroyable. C'est qu'effectivement, on voit très peu de femmes sur les plateaux télé qui portent le voile ou en tout cas qui sont invitées. Mais moi, plusieurs fois, on m'a posé la question, notamment à chaque polémique, en fait. Comme c'est un sujet effectivement récurrent, on revient, donc le burkini, on m'approche pour ça. Sur le voile dans le sport, pareil, etc. Et à chaque polémique, on reprend un peu ces personnalités-là qui portent le voile. Et bref, on les utilise, on les instrumentalise dans ce discours-là. Et en fait, c'est pour ça que moi, je réponds très, 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 très rarement, voire quasi pas. Et je refuse systématiquement parce que je veux parler d'autre chose, quoi.
Oui, parler de vos combats, par exemple, j'imagine, de vos revendications de
syndicalistes. Syndicales, étudiantes, enfin, les problématiques jeunes, en fait, simplement. Et c'est, enfin, moi, c'est ce pourquoi je me suis engagée dans l'UNEF. Et à partir de ce moment-là, j'estime que mon taf, c'est celui-ci, et pas systématiquement de répondre, en fait, aux polémiques. On pourrait en avoir envie, en se disant, il n'y a aucune femme sur le plateau télé, du coup, on va y aller. Et en fait, dans ce que vous disiez dans l'introduction, c'est un combat, en fait, parce que c'est un périmètre et une discussion autour de la table qui est compliquée à vivre aussi pour les personnes.
C'est-à-dire que vous allez à la guerre, ça veut dire que... Oui,
c'est vraiment très compliqué. Et donc, forcément, je peux comprendre, et moi, la première, qu'on a envie de se mettre en retraite, se protéger aussi à un moment donné et de voir les choses avec du recul.
Alors, promis, on va parler de vos combats, mais du coup, j'aimerais bien quand même aussi parler aussi avec vous de votre foi, de votre croyance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de porter le voile, Mariam Poujetou?
Alors, pour moi, c'est pas porter le voile, c'est être croyante.
Okay.
C'est le fondement, et c'est le lien avec Dieu et des prescriptions qui ont été dictées par Dieu. Et donc ça, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, moi, c'est mon choix de vouloir s'en approcher. Et parmi celles-ci, il y a la question de se couvrir les cheveux. Et donc, moi, je le fais en connaissance de cause et aussi, en fait, pour Dieu. Et donc, c'est pour ça que souvent, quand on dit qu'une femme porte un voile pour un homme, pour son père, etc., ça va même à l'encontre de ce pourquoi le voile a été indiqué, tout simplement parce que normalement, on le fait pour Dieu et pas pour des êtres humains. Enfin, si je vais très très vite, c'est un peu ça. Et donc, c'est un paradoxe même dans les débats qu'il y a dans la société. Et donc, moi, je le reprends vraiment dans ce sens-là. C'est un lien avec Dieu. Et effectivement, c'est visible. C'est-à-dire, quand on va me voir dans la rue, on va le voir. Mais j'espère qu'on voit autre chose que ça. Et c'est très déshumanisant, en fait, aussi, de voir juste le voile et pas la personne qu'il y a derrière.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vous ramène toujours à cette question-là, sans cesse ?
C'est pas que moi, les femmes musulmanes de manière générale qui portent le voile, on leur ramène. Et les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile, on leur pose aussi la question de pourquoi elles ne le portent pas. Et donc systématiquement, on va les rattacher en fait à ce voile.
Agnès de Féau, vous pensez qu'on vit dans une société, est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'on vit dans une société islamophobe ?
Ah bah, carrément, oui.
Ouais.
Là, franchement, l'avantage avec le discours de, par exemple, d'Éric Zemmour, c'est qu'il l'a bien montré publiquement. Donc, on est dans une société islamophobe et hyper sexiste. Parce que pour moi, le fait de dénier aux femmes le droit de se voiler les cheveux ou le visage, c'est pareil, c'est refuser aux femmes le droit de disposer de leur corps. Donc, et je rejoins tout à fait Mariam sur le fait que on est tout le temps dans l'obsession des musulmanes de leur voile. Et voilà, on arrive
pas. Et c'est comme si on leur déniait le fait d'être suffisamment intelligente aussi pour prendre une décision en connaissance de cause.
Tout à fait. Et par rapport à ce que disait Mariam, c'est absolument contre-intuitif. On imagine toujours qu'une femme le porte pour obéir à un homme. C'est-à-dire, c'est pour son père, son mari,
et
son fils.
C'est très patriarcal.
Toujours la patriarcale. Et pour moi, c'est exactement le contraire. Et d'ailleurs, en fait, dans mes terrains, très peu de femmes qui portaient, le niqab, était marié.
Alors, juste pour expliquer la différence, le niqab, c'est un voile
intégral, donc il couvre aussi le visage. Et donc, on imaginait, la majorité de la population française imagine toujours que le niqab, c'est une coercition du mari sur la femme. Or, très peu sont mariées. En général, elles sont absolument pas soumises. Or, là, j'ai relevé quelques citations de personnages publics et qui reflètent vraiment la mentalité française. Par exemple, quand on voit Marlène Schiappa qui dit « Le voile n'est pas un vecteur d'émancipation pour les femmes » ou alors encore « Le port du voile islamique, c'est acter l'infériorité des femmes en les sexualisant » ou encore « Le voile impose un statut d'infériorité aux femmes ». Tous mes terrains m'ont montré que c'était exactement le contraire. On est devant des femmes, au contraire, très volontaires, qui savent ce qu'elles veulent et qui veulent imposer leur choix et exister dans la société. Aussi, quelque chose qui est hyper important et qu'on n'écoute jamais de la part des femmes voilées, c'est ce qu'elles disent. À chaque fois, elles me disent « je me sens mieux avec ». Depuis que je l'ai mis, je ne peux plus l'enlever parce que je me sens bien. Et je pense que aussi le voile, hormis le fait, sa dimension religieuse, c'est aussi une façon de répondre à une société hyper sexualisée.
C'est ça qui m'a vraiment frappée à la lecture de votre livre, c'est combien un grand nombre des femmes avec qui vous avez échangé ont fait ce choix aussi du voile, quelque part, pour s'extraire de la compétition du marché sexuel, de ce que Virginie Despentes appelle le marché à la bonne meuf. Cette compétition intense qu'on a tout le temps de devoir être belle, mince, considérée comme, j'arrive pas à le dire sans être vulgaire, baisable, c'est aussi une façon de sortir de cette compétition.
Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est quand on étudie le profil de ces femmes, parce que moi j'ai fait des entretiens sur des années avec les mêmes, donc je les ai suivies pendant
10 ans, il faut préciser.
Et leur profil est vraiment très intéressant, parce que souvent, Alors, une majorité de ces femmes avaient pour profession celui était esthéticienne.
Oui, alors ça, donc, c'est frappant.
Voilà, c'est frappant. Alors, et donc, était vraiment dans l'esthétique, dans le magazine féminin, m'expliquait que, voilà, pour elle, la beauté, c'était de ressembler au magazine féminin. Beaucoup voulaient devenir mannequin, beaucoup voulaient faire carrière dans l'esthétique. Et à partir d'un moment, elles se sont rendues compte que c'était, ça avait aucune issue. Elles avaient peut-être pas le physique pour en faire une profession. Et finalement, l'islam et surtout le voile leur a permis de retrouver leur intégrité. Enfin, c'est-à-dire de se dire, voilà, il n'y a pas que le physique dans la vie. Et finalement, elles ont jeté tout ce qui était magazine féminin. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression quelquefois que c'est une réparation par rapport à une société qui est hyper coercitive par rapport à l'apparence féminine, qui met des normes. Et si vous n'obéissez pas à ces normes, finalement, vous n'êtes pas, comme vous disiez, baisable. Et ça fait... Et voilà. Et donc, je pense quelquefois... Enfin, bon, c'est difficile de le dire, parce que évidemment je ne nie pas la dimension religieuse, mais il y a aussi une dimension éthique, il y a une dimension personnelle, de développement personnel, et elles vont se dire qu'elles se sentent mieux. Et ça, je trouve ça terrible qu'une société n'arrive pas à entendre des femmes qui expriment leur bien-être sous le voile.
Mariam Pougetou, c'est quelque chose qui fait écho à un ressenti personnel, à ce qu'on explique sur la sortir de la compétition de la beauté?
Je ne l'avais jamais pensé comme tel et réfléchi comme ça, mais du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ce prisme-là. Mais c'est vrai, parce que du coup, on ne peut pas nous comparer, en fait. Par contre, on nous compare entre nous. Entre femmes qui portent le voile, ça, il y a des comparaisons qui se font. Et donc, il y a encore ce système patriarcal et sexiste, en fait, qui se renforce.
On vous compare sur quoi, du coup, sur à quel point vous vous couvrez, ou c'est
pas forcément,
ou même si vous vous maquillez
Par exemple, c'est ça, ouais. une femme qui va porter le voile et qui va se maquiller versus une femme qui porte le voile et qui va pas se maquiller. Les couleurs, même, de voile. Enfin, tout simplement, à partir du moment où tu mets des couleurs, tu vas être différente d'une qui va apporter genre, quelque chose de très austère, enfin, vu comme austère, donc du noir ou des couleurs sombres. Et donc voilà, moi il s'avère que j'aime bien les couleurs pastel, donc voilà, je mets du rose, du bleu pastel, etc. Mais et en fait ça ne rentre pas dans les codes qui sont vus dans la société comme telle, et ça rentre pas dans les stéréotypes, et donc forcément ça dérange. Donc il y a pas que le voile en tant que vêtement qui dérange, c'est aussi la manière de le porter, c'est enfin voilà, et ce que font aussi les femmes derrière. C'est à dire que moi, quand je mangeais des polémiques, c'était aussi parce que j'étais engagée, et donc ça dérange. C'est à dire que être étudiante, féministe, antiraciste, et porter le voile, et de confession musulmane, et syndicaliste, ça ne rentre pas dans les codes prédéfinis. Et c'est ça qui dérange aussi.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « on ne peut pas porter le voile et être féministe » ?
Je leur réponds pas. Enfin, je leur réponds plus. Non, parce que j'ai déjà répondu plein de fois, donc je leur réponds plus. Mais en fait, à partir du moment où la définition d'être féministe, c'est de faire en sorte que défendre les droits de toutes les femmes, et toutes les femmes, ça intègre bien toutes les femmes, ou en tout cas qui se considèrent comme femmes, et concrètement, à partir du moment où on rentre dans ces définitions-là, on est féministe. Donc, qu'on porte le voile ou pas, ça ne change rien. Et je pense que c'est ça qu'il faut conserver comme définition aussi.
Vous voulez dire quelque
chose par rapport au féminisme, en fait, ce qui était vraiment aussi contre-intuitif, c'est quand j'interrogeais donc les femmes qui portaient le niqab, parce qu'elles le portent pour la plupart plus aujourd'hui, donc elles me disaient, je leur posais la question du féminisme, elles me disaient, mais bien sûr que je suis féministe. Pour elles, ça ne faisait absolument aucun doute. Donc ce sont des femmes aussi très modernes, des femmes qui sont nées en France, qui sont françaises. Et je me souviens dans mes documentaires, au tout début, parce que mon premier documentaire date de 2010, les gens m'ont dit, c'est incroyable, elle parle français. Donc on est exactement dans ce que vous disiez, Mariam, dans une altérité, on a l'impression que c'est des femmes qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'étranger, qui essayent d'importer une coutume étrangère en France. Or en fait, elles sont bien françaises, et la majorité aussi sont des Françaises converties. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que les convertis en France à l'islam sont à peu près 1%, 1 à 2%, et elles représentent plus de 50% des femmes qui portent le voile intégral. Donc on voit, on est vraiment dans une hypermodernité, et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas concevoir. Et je voudrais encore citer, par exemple, une femme dans le Figaro, je crois, qui Khadija Khan, qui disait « Le voile est une idéologie misogyne faisant des femmes des objets sexuels intrinsèquement immoraux. » Donc là aussi, c'est le délire être de ces personnes qui projettent sur les femmes voilées leur propre névrose, finalement. Parce que, en fait, une femme voilée, et je pense, peut se dire féministe, est féministe parce qu'elle veut dire « mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux ». Et évidemment, ce ne sont pas des objets sexuels. Elles essaient de se désexualiser dans l'espace public. Et souvent, les femmes vont dire « voilà, je ne supporte pas le harcèlement sexuel, c'est pour ça, avec le voile ou avec le niqab, au moins, je suis protégée ». Donc moi, je vois, à partir de mes entretiens, davantage le voile comme une protection, comme une façon de mettre à distance les hommes et le harcèlement sexualisé qu'on a dans l'espace public.
Ça me fait penser à Diams, un peu, du coup, qui avait été un peu traumatisée par cette notoriété. Enfin, c'est comme ça que je le lis de l'extérieur, qui avait été tellement exposée et traumatisée que peut-être c'était aussi une forme de protection de se convertir à la religion.
Oui, voilà, ouais. C'est possible. En tout cas, les femmes, je ne sais pas si vous allez confirmer, mais en tout cas, les femmes qui se convertissent à l'islam et qui portent le voile, en général, elles ont l'impression de s'améliorer, de se bonifier. Elles ont le sentiment vraiment d'avoir trouvé leur voie et de réparer un passé qui ne les satisfait plus.
En fait, ce qui est hyper frappant dans ce que vous dites, c'est à quel point la superficialité de la société est brutale. Parce qu'à tel point, elles cherchent quelque chose qui va leur dire il n'y a pas que le physique qui compte.
Exactement.
C'est ça. En tout cas, je vous remercie. C'est passionnant de vous écouter. J'aimerais qu'on revienne, Mariam Pougetou, sur un événement qui s'est passé en février 2020, où vous étiez invitée à l'Assemblée nationale pour une commission d'enquête. En septembre 2020. Oh là, j'arrive pas avec les dates aujourd'hui. Vous étiez invitée à l'Assemblée nationale pour une commission d'enquête en tant que membre de l'UNEF, en tant que vice-présidente de l'UNEF. Et trois parlementaires, les Républicains ainsi qu'une élue macroniste, ont décidé de quitter la salle avec pertes et fracas. Qu'on réécoute ce petit moment.
Vous avez la parole.
10 000 places cette année apparemment vont être créées. On attend de voir les moyens qui vont avec et notamment les professeurs qui vont avec parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses pour le moment de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup.
Madame la Présidente, nous faisons constat avec regret qu'un syndicat étudiant auditionné a fait le choix d'enfreindre le principe même de laïcité auquel doit s'astreindre notre Assemblée. Le sujet des conséquences de la crise sanitaire sur l'avenir de la jeunesse de notre pays est assez grave. Pour que la représentation nationale n'ait pas à subir, dans ce temple de la démocratie, les démonstrations communautaristes de certains. Le syndicat étudiant, autrefois majoritaire, fait un choix délibéré que nous n'acceptons pas. Attaché aux valeurs de notre République, conscient du symbole terrible pour notre Assemblée, cette attaque préméditée, nous ne pouvons cautionner cette image de la représentation nationale, restée silencieuse et masquée, face à cet acte politique communautariste délibéré. Les députés Les Républicains décident donc, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, de quitter cette audition.
Merci. Alors, vous allez me faire le plaisir d'entendre ma réponse. Comme ça, on remettra peut-être aussi les règles. Aucune règle n'interdit le port de signes religieux dans le cadre de nos travaux pour les personnes auditionnées. Non, mais laissez-moi finir, je vous ai écouté jusqu'au bout. Le port de signes religieux est par ailleurs accepté pour les personnes assistant aux séances publiques dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La seule règle prévue par notre instruction générale du bureau s'applique aux députés dans l'hémicycle. L'article 9 prévoit que ces derniers ne peuvent porter de signes religieux ostensibles, un uniforme, des logos ou des messages commerciaux ou des slogans de nature politique. Je rappelle enfin que la règle de neutralité du service public s'applique aux agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Cette règle ne trouvant aucunement à s'appliquer dans le cadre d'une audition menée à l'Assemblée nationale, je laisse le choix de partir si vous le souhaitez, mais c'est un mauvais procès.
Alors celui qu'on a entendu ici, c'était Pierre-Henri Dumont, qui est député républicain du Nord-Pas-de-Calais, et celle qui lui répond, c'est Sandrine Morche, députée En Marche. Je voulais qu'on écoute sa réponse, parce que du coup, elle fait un rappel quand même au règlement, à la loi, elle explique que factuellement, vous aviez tout à fait le droit d'être là, et puis en plus, il savait que vous alliez venir, donc ils ont fait exprès de faire une espèce de sortie tonitruante, mais votre venue, elle était prévue.
Oui, mais surtout, il y avait la petite affiche devant avec mon nom et mon prénom, donc c'était pas une surprise, et au-delà ça,
comment vous avez vécu ce moment?
Déjà, moi, j'avais aucunement la question de. Je pensais pas que ça allait arriver, déjà. Là, il parle de préméditation, une certaine préméditation, etc. C'était pas du tout le cas. Enfin, je suis vice-présidente en charge de ces questions-là, donc c'est normal. On parle Covid, jeunesse. Je suis en charge de ce sujet-là, donc je viens. Et en dehors de ça. Je leur ai même pas répondu parce que déjà la présidente de la commission a très bien répondu, a rappelé le règlement, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où le règlement est de ton côté, la loi est de ton côté, t'as pas à te sentir illégitime d'être présente, et donc si effectivement eux ça leur pose des problèmes, qu'ils sortent. Et c'est paradoxal parce qu'ils disent que justement le sujet des jeunes, du Covid, c'était extrêmement important et que le fait que je sois là pose un problème, alors qu'au contraire, eux, ils sont prêts, même avec un sujet aussi important, à partir pour quelque chose qui est légal. Donc, et je pense qu'il faut renverser la chose dans l'autre sens et aussi donner de la force aux personnes qui prennent la parole et qui sont en minorité dans la société et qui sont minorisées par la société, tout simplement parce que, bah, en fait, on a notre place. Et bah, le livre de Rokhaya Diallo ne reste pas à ta place. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu tout le combat, en fait, de plein de personnes qui vivent des oppressions dans la société.
Vous aviez déjà, après cette séquence, ça avait fait un buzz pas possible sur les réseaux sociaux. C'était la deuxième fois que ça vous arrivait. En 2018, il y avait eu une campagne carrément de harcèlement qui avait été menée à votre encontre par le Printemps Républicain. Comment on vit avec ça? On s'endurcit, on s'habitue, on regarde pas? Comment vous faites?
Alors, c'est deux situations différentes. Et entre-temps, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, j'ai pas pris la chose de la même manière. Quand c'était en 2018, j'avais 19 ans à l'époque. Et donc, c'est beaucoup plus violent aussi. Voilà, on est dans l'enseignement supérieur. On est plein de bonne volonté, un peu presque naïve, de vouloir juste aider les étudiants. Et on se retrouve confronté effectivement à la haine sur les réseaux sociaux. Et aussi, enfin, on ne pouvait pas zapper une chaîne sans qu'il y ait ma tête. Donc c'est très très bizarre et on perd l'anonymat aussi. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, c'était au-delà des réseaux sociaux. Quand je sortais dans la rue, on me reconnaissait. Et systématiquement. C'est-à-dire peu importe où j'allais, peu importe avec qui j'étais. Et donc ça fait très très peur de perdre en fait cet anonymat aussi. Et des questions tout simplement de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a eu des femmes hein, qui portaient le voile ou pas, qui se font agresser. Et donc il y avait aussi cette peur-là d'être confrontée à ça. Donc je faisais très attention à ce moment-là. Alors que... ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, là, c'était totalement différent. C'est-à-dire que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y avait aussi le Covid. Donc, voilà, les restrictions sanitaires faisaient que ça a peut-être mis certaines barrières. Et au-delà de ça, je l'ai pris avec beaucoup plus de recul. Et j'étais beaucoup plus armée aussi pour faire face à la haine sur les réseaux sociaux.
Vous êtes soutenue au sein de l'UNEF sur ces questions?
Oui, oui. Ah oui, mais sinon, je serais jamais restée dans le syndicat. Et on ne m'aurait jamais, je pense, proposé d'être vice-présidente.
Oui.
Donc, il y a une confiance aussi là-dedans et un soutien. Et heureusement que j'ai le soutien de mon syndicat, de mes proches et de personnes totalement extérieures à qui je n'ai pas forcément l'occasion de dire merci, mais je reçois les messages et je les vois aussi.
Merci beaucoup. Je suis contrainte de vous interrompre une toute petite poignée de secondes. On se retrouve dans une minute.
On va le dire quand même.
Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander pourquoi c'est si compliqué de parler sereinement du voile en France avec la vice-présidente de l'UNEF, Mariam Pougetou, et la sociologue et réalisatrice Agnès de Féo. Agnès de Féo, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pensez du développement de ce concept un peu obscur qui a été théorisé, je ne sais pas, par Frédéric Vidal ou Jean-Michel Blanquer, de l'islamo-gauchisme? Enfin, théorisé, c'est un bien gros mot, qui a été inventé.
Alors oui, enfin, l'islamo-gauchisme, c'est un peu l'insulte qu'on reçoit à partir du moment où on veut juste faire parler, par exemple, les femmes qui portent le voile intégral. On vous accuse tout de suite d'être de connivence avec l'islamisme, de vouloir défendre cette vision des choses. Donc voilà, c'est une espèce de tarte à la crème. Je sais que voilà, c'est un petit peu l'assignation à laquelle on est acculé à chaque fois, c'est-à-dire qu'on vous accuse, même vous avez beau faire des entretiens, montrer la réalité de ces femmes, on vous accuse à chaque fois de parti pris. On pense que vous faites de la propagande, et à chaque fois de la propagande, ou alors vous essayez de diffuser une idéologie, comme on dit, une idéologie misogyne. Et quand j'explique que le voile n'est absolument pas misogyne, puisque c'est les femmes qui font le choix de le porter, qu'elles ne sont pas du tout soumises à un homme. Donc là aussi, on vous conteste le droit de le dire. Et c'est, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler sur le voile intégral, c'était en 2008, donc avant que la commission d'enquête se mette en place, et on réfutait tous mes arguments, donc je faisais ça dans des séminaires de recherche.
La commission d'enquête à laquelle vous faites référence?
C'est celle de 2009, donc qui avait été pour, justement, avant le passage de la loi, avant le vote de la loi, qui avait été...
Qui avait interdit le voile intégral. Okay.
Voilà, qui avait été interdit le voile intégral. Et donc, je me souviens, dans des séminaires de recherche, on contestait, on pensait vraiment que j'inventais que j'inventais le profil des femmes dont je parlais. Et c'est pour ça que j'ai pris le parti, en fait, de les filmer afin qu'on entende leurs propos. Et voilà, donc ça, je pense que les femmes qui portent le voile ou le niqab doivent être entendues. Ce sont des personnes comme les autres, ce sont des citoyennes, et souvent de très bonnes citoyennes, et qu'il faut, voilà.
Et vous racontez aussi que vous avez suivi ces femmes pendant 10 ans. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont fait le choix de ne plus porter le niqab. Comment ça s'est passé, ce nouveau choix, pour elles ?
Donc, le problème, c'est qu'entre-temps, elles ont commencé... J'aimerais aussi parler de quelque chose qui est vraiment très important, c'est que toutes ces polémiques qui visent les femmes qui portent le voile ne font que renforcer leur volonté de le porter. Donc, l'effet est paradoxal, c'est-à-dire que plus on interdit quelque chose, plus cet interdit, les femmes qui le portent ont envie de le transgresser. Et c'est ce que j'ai observé, donc j'ai commencé en 2008, donc 2 ans avant la loi d'interdiction du voile intégral, et à partir du moment, donc c'était un phénomène complètement marginal.
Il y avait 300 femmes à peu près qui le portaient avant la loi. Ouais.
Et à partir de la loi, donc beaucoup plus de femmes l'ont porté. Donc, je n'ai pas exactement les chiffres parce que moi, je travaille de manière qualitative. Donc, je ne peux pas vous dire sur toute la France combien de femmes le portaient après la loi. Mais j'ai pu voir des femmes qui le portaient et qui me disaient, qui expliquaient vraiment, très sincèrement, qu'elles avaient commencé à porter le niqab à partir du moment où celui-ci avait été interdit. Et elles en arrivaient même à remercier Sarkozy en disant, voilà, merci Sarkozy, grâce à lui, j'ai porté le niqab, sinon je ne l'aurais jamais porté, j'aurais même pas pensé à le porter.
Ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est que certaines le font pour manifester, le porter pour manifester un mécontentement avec la société.
Alors, cette dimension politique, peut-être, mais souvent, elles le font parce que finalement, elles aiment le fait d'être hors la loi aussi. Parce que ça leur permet de renverser les rapports qu'elles ont avec l'extérieur. Quelque chose aussi qui est très important à souligner, donc c'est cet effet contre-intuitif et contre-productif de toutes ces lois, de toutes ces hystéries contre le voile, qui font que les femmes qui ont envie de porter le voile vont justement profiter de cette actualité pour le porter, parce que elles se sentent, voilà, c'est une réaction d'autodéfense. C'est-à-dire qu'elles se sentent attaquées par l'extérieur, donc pour elles, c'est vraiment important de le porter et de le montrer.
Mariam Pougetou, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'islamo-gauchisme?
J'en pense rien, mais on est obligé d'en penser quelque chose. Parce qu'on nous le ravache à chaque fois. Non, mais ça fait partie des non-sujets, des mots-valises qui sont utilisés par-ci, par-là pour en faire un sujet et après créer des polémiques à partir de ça et les ressortir. Aujourd'hui, quand on à tout va, on traite un peu tout le monde d'islamo-gauchiste à partir du moment où ils sont un peu progressistes sur ces questions de défendre les personnes qui sont de confession musulmane, notamment les femmes en particulier. Et en fait, on met tout le monde dans le même panier, on en fait une tarte à la crème, comme vous disiez. Et voilà, et ça, c'est comme si ça réglait en fait le problème en disant tout ce qu'ils disent, on délégitime leurs paroles parce que c'est le camp des islamo-gauchistes. Alors qu'en fait...
On les rend complices en fait de ces ennemis de l'intérieur. Donc les musulmans pratiquants visibles sont considérés comme des ennemis de l'intérieur et ceux qui essaient de les approcher sont leurs complices. Et à part ça, c'est vraiment du complotisme. Mais ce ne sera jamais décrit comme un complotisme. Donc le fait de croire que les musulmans vont prendre le pouvoir en France, vont inverser les rapports, le grand remplacement. Donc ça, c'est un vrai complotisme, c'est un vrai délire. Mais ça n'est jamais vu comme tel. Or, dans mes recherches, je considère vraiment le voile, au contraire, comme une transgression. Puisque, devant une telle opposition, le fait de le porter est tellement difficile qu'on peut dire que c'est une transgression des normes auxquelles les femmes sont assignées dans notre société.
Merci Agnès De Feo. Mariam Pougetou, jusqu'en 2013, l'UNEF, donc le syndicat auquel vous appartenez, était favorable à l'interdiction du voile à l'université. Aujourd'hui, ce même syndicat étudiant a été critiqué par le Parti Socialiste, dont il était proche autrefois, notamment pour avoir organisé des réunions non mixtes. Certains anciens historiques du syndicat jugent l'UNEF en prise à des combats identitaires. Comment ça se passe en interne? Comment vous réagissez à ces critiques-là?
Alors déjà, on dit plein de choses sur l'UNEF et on a beau chacune, toutes les personnes qui passent les unes après les autres dans les médias pour répondre à ces sujets-là se retrouvent confrontées à des murs parce qu'on ressort ces éléments-là. Mais l'UNEF n'était pas vraiment contre le voile à l'université, c'était plus complexe que ça.
Ah, d'accord.
Par contre, c'était... Oui, mais parce que tout le monde pense ça, mais c'était pas exactement ça, c'était plus complexe que ça. Par contre, effectivement, on va dire l'UNEF, il y a quelques années, n'est plus celle d'aujourd'hui. Et tout simplement parce qu'en fait, l'enseignement supérieur, les étudiants changent, la société évolue, et c'est plus la même génération aussi. Je pense qu'il y a un vrai clivage générationnel qui se fait, et aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus conscients des sujets de société, que ce sont le racisme, le sexisme, l'LGBT-phobie, le validisme, les questions écologiques, etc. Et ça se ressent aussi, en fait, dans les combats qu'ils veulent porter, et derrière, ça se ressent dans leur engagement, et donc dans les organisations dans lesquelles ils s'engagent. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui... le cheminement qu'il faut faire, et sur la question des réunions de mix, pour moi, c'est un non-sujet, parce que techniquement, OLF, le MLF, etc., Enfin, les femmes se réunissaient justement pour parler de ce qu'elles vivaient dans les entreprises parce qu'elles ne sentaient pas de parler de tout devant des hommes ouvriers alors qu'ils avaient la même condition sociale. Donc voilà, c'est beaucoup plus complexe et ça a déjà existé. C'est juste qu'effectivement, parce qu'il y a des réunions en non-mixité, des groupes de parole, en fait, c'est vraiment tout le monde autour d'un café pour discuter de ce qu'il vit au quotidien, pour vider son sac, c'est un peu ça. Ça crispe parce que c'est pas que sur la question du sexisme, c'est sur d'autres discriminations. Et donc ça, c'est beaucoup moins accepté dans la société à l'heure actuelle. En tout cas, dans le
vous attendiez à ce que ça fasse autant polémique juste de faire des, comme vous dites, des groupes de parole au café?
Mais après on s'attend à tout parce que ouais. Parce que à partir de rien, on monte en épingle plein de choses. Donc ça, il y a des personnes qui sont très très fortes là-dessus. Et après, il y a aussi les idées d'extrême droite, etc., qui aussi, qui sont du grand remplacement, enfin ce genre d'idéologie-là, qui sont tellement véhiculées et banalisées que finalement, certaines personnes pensent que c'est une réalité et donc l'utilisent après dans leur discours. Et c'est bien problématique, d'ailleurs.
Ouais. Agnès de Féau, pour revenir à votre livre, il y a aussi quelque chose que je trouvais très intéressant. C'est que vous écrivez que finalement, les femmes les plus religieuses et les plus instruites quant à l'islam vont plus avoir tendance à porter le foulard que le voile intégral. Comment vous expliquez cela, selon vous? Quelles sont les raisons qui vous ont, que vous avez perçues?
Donc, en fait, le voile intégral est vraiment, s'est multiplié dans l'espace public dans les années 2010, justement suite à la loi. Et donc, souvent, c'était une réaction en fait. Et beaucoup, c'est vrai que j'ai remarqué que ces femmes qui portaient le voile intégral, alors que je les imaginais hyper religieuses, très savantes en religion, qui étaient sans arrêt dans l'étude, en fait, ne savaient même pas lire l'arabe, par exemple. Donc je pense que c'était une réaction identitaire. Voilà, donc en fait, peut-être on a vu cet engouement pour la visibilité de cette manière de se présenter comme hyper religieuse dans l'espace public et de pallier justement peut-être le manque de connaissances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise aussi, c'était que des femmes qui portaient le simple voile pouvaient être beaucoup plus religieuses dans leur discours que celles qui portaient le niqab. Et souvent, vraiment, la religion était très vite évacuée dans nos discussions pour laisser place à des questions plus personnelles, plus intimes, où elles parlaient justement des hommes. Et donc, au lieu de penser que le voile est un objet misogyne, on pourrait plutôt androphobe, en fait. Beaucoup de ces femmes, justement, avaient des problèmes avec les hommes, étaient très heureuses de pouvoir se couvrir complètement pour échapper à la mainmise, en fait, de leur regard, éviter d'être chosifiées sexuellement. Donc, c'était vraiment exactement le contraire. Est-ce que je peux juste faire une toute petite remarque? Parce que j'ai remarqué, en fait, quand vous tapez, par exemple, « voile infériorité des femmes » sur Google, vous arrivez sur des textes qui sont complètement délirants, qui sont absolument ignorants et cultes sur, justement, les questions religieuses et sur le voile. Donc, c'est vraiment très banalisé aussi, ce discours anti-voile. Et ça commence toujours par une leçon de théologie. Et ça commence toujours par dire, voilà, le voile n'est pas dans le Coran. Donc, on a des gens qui ne connaissent rien à l'islam, évidemment, qui vont donner des leçons religieuses aux femmes qui portent le voile, en leur rappelant que, attention, le voile n'est pas dans le Coran. Donc, c'est vraiment délirant, parce que c'est comme si on reprochait à des religieux le fait que leur coutume, que leur pratique de la messe, par exemple, n'est pas dans les évangiles ou des choses comme ça. Donc, là aussi, je pense qu'on est dans une société vraiment inculte, absolument inculte, intolérante, évidemment, au particularisme religieux, et qui veut imposer ses propres vues, qui veut instaurer des normes, surtout sur les femmes. Donc le voile n'est absolument pas misogyne. Et au contraire, ceux qui sont contre le voile le sont, je pense.
Moi, je pense que savoir si on est pour ou contre le voile, je pense que c'est une question qu'on ne pourra pas résoudre en une heure ici ensemble. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment très, 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 très grave, c'est le harcèlement dont vous avez été victime, c'est le fait que les femmes voilées se voient réduire leur liberté, le fait qu'elles n'aient pas le droit d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Enfin, ça, c'est complètement fou. Je pense que c'est, selon moi, c'est cette question sur laquelle on peut essayer de discuter aujourd'hui ensemble. Et comment faire, en fait, pour essayer de dépasser ce clivage? Alors, c'est plutôt aux autres d'apprendre à écouter et à ne pas harceler. Mais comment vous, Mariam Pougetou, vous avez vous dites que vous vous protégez par exemple en ne répondant pas à certaines questions ou en n'acceptant pas certaines invitations? Ou est-ce que vous avez trouvé des réponses un peu toutes faites, comme ça vous n'avez pas besoin d'y réfléchir pendant des heures? Quelles sont un peu vos armes au quotidien?
C'est dur parce que j'en cherche encore. J'en cherche encore parce que c'est très dur de se protéger de tout ça. Je pense que il y a la question du cyberharcèlement, du cybersexisme, etc. Il y a le livre de Stop Ficha sur le cybersexisme qui est très bien fait, où il y a notamment des outils à la fin pour à la fois les personnes qui vivent ces situations, mais aussi pour les personnes qui en sont proches. Et donc, ce livre est plutôt bien fait. Donc voilà, c'est pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas. Donc il y a les ressources, en fait, tout simplement, hein, lecture ou autre, des personnes qui ont réfléchi sur ces sujets-là et qui en parlent. Après, il y a les petites choses perso que moi je fais. Enfin, il y a parfois, je ne réponds pas du tout sur les réseaux sociaux. Il y a des moments où je peux mettre mes comptes Twitter, Instagram, ça en privé. Parfois pas, forcément, ça dépend. Et en fait, ça dépend aussi de moi, comment je me sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une polémique sur la question du voile et que ça me passe un peu au-dessus. Donc, je vais dénoncer la chose, mais les commentaires qui vont en résulter me passeront au-dessus. Et donc, du coup, je sais que je ne vais pas avoir besoin de couper mes réseaux sociaux ou autre. Par contre, il y a d'autres moments où c'est plus rude, et ça dépend aussi de ma vie au quotidien. Enfin, il n'y a pas que ces sujets-là qui affectent en fait notre vie privée. Et il y a des moments où on peut être un peu plus mal. Voilà, on a des partiels, on va peut-être rater un examen, des choses. Et en fait, on va plus être affecté par ce genre de polémique et donc vouloir plus se protéger. Et donc, je pense qu'il y a aussi cet équilibre à trouver. Mais c'est vrai que souvent, je ne réponds pas trop sur ces questions-là et ça me facilite grandement la vie. Et par contre, effectivement, il y a d'autres personnes qui se disent il faut répondre justement parce que vous n'avez déjà pas beaucoup de place. Donc, si vous ne répondez pas, il n'y aura plus personne du tout. Donc,
comment vous vivez cette période de débat présidentiel, Agnès de Feo? Vous avez de l'espoir?
Non, absolument pas. Je voulais juste rebondir sur les propos de Mariam. En fait, donc, par rapport aux femmes que je connais, ce genre d'attaque incite au repli sur soi. Et donc, justement, au communautarisme. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, le communautarisme, c'est aussi les autorités qui le créent. Parce que, regardez, par exemple, la loi de 2004 d'interdiction du port des insignes religieux à l'école. Qu'est-ce que ça a fait? Donc, ça a multiplié, au contraire, le hijab qui était très peu porté à l'époque par les jeunes femmes qui étaient nées en France. Et surtout, ça a créé des écoles confessionnelles. Donc, les écoles confessionnelles qui sont tellement vilipendées aujourd'hui, les écoles musulmanes, ont été créées, ça n'existait pas avant 2004, ont été créées après la loi de 2004. Donc, je pense que c'est exactement l'inverse de ce qui est contredit. On crée le communautarisme par ce type d'obsession anti-voile et anti-niqab.
Quand vous étiez au lycée, vous, Mariam Pougetou, c'était comment ça, vous le viviez pour vous de pas pouvoir porter le voile en cours?
Déjà, faut un peu expliquer aux camarades de pourquoi on le porte. Et donc, en fait, très vite, on est amené à se justifier de pourquoi on le porte. Oui. Et donc, mon corps, mon choix, ça marche pas. Ça marche pas tout de suite. Ça arrive plus tard. Donc, déjà, devoir se justifier. Et par exemple, les sorties scolaires, donc c'est cadre scolaire. Donc, même si on est dans la rue, dans un musée, etc., on le porte pas. Et donc, il y a parfois cette dichotomie et on se dit mais c'est bizarre. J'avais ce ressentiment-là en disant ça me fait bizarre. Mais je me dis c'est les règles, donc je les respecte. Et donc j'ai toujours été dans ce truc-là de respecter la loi et en même temps de pouvoir pratiquer ma religion tranquillement de mon côté. Donc c'était parfois un peu compliqué. Et par exemple, j'ai fait une année de classe préparatoire et j'ai fait une grande partie de cette année-là en internat. Ce qui fait que la plupart du temps, en fait, j'étais en internat toute la journée, en cours, le travail, à la bibliothèque le soir, et tout était en fait dans le même établissement. Et donc, en fait, je ne pouvais pas porter le voile. Et par contre, quand je sortais, je le portais. Donc, j'ai très vite dû expliquer aussi pourquoi. Et donc, souvent, en fait, on est amené à expliquer pourquoi, même pas forcément dans le débat public, mais dans notre vie quotidienne, parce que ça a un impact concret. Au quotidien, tout simplement.
C'est ce que les féministes appellent le fardeau narratif, quand on doit sans cesse devoir se justifier de ses actions, de ses positionnements, de sa vie, en fait. Ça devient une espèce de charge mentale, en fait.
Ouais, il y a une charge mentale, et je crois qu'il y a des mémoires qui sont en train de faire des thèses sur ces sujets-là, sur la charge mentale que vivent les femmes musulmanes, et notamment les femmes musulmanes qui portent le voile en France.
Et j'imagine qu'elles ont plein de choses très intéressantes à nous dire. C'est déjà la fin. Un grand merci d'avoir été avec nous. C'était passionnant de vous écouter. Merci à nos invités, Mariam Pougetou, et merci à Agnès de Feo. Merci à nos chargés de production, Charlotte Bex, notre réalisatrice Alice Ninin, et notre chère stagiaire Agathe Albouy. On peut plus rien dire. C'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un petit tête-à-tête avec une de nos chroniqueuristes. Et vendredi prochain pour un nouveau débat. Et d'ici là, mes chers amis, parlez-vous de tout, aucun sujet tabou. On vous embrasse, à très vite.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.